France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Quand Charles de Gaulle prononce en 1946 son célèbre discours de Bayeux avec son appel pour restaurer le pouvoir exécutif, sa réflexion n'est pas menée seulement à partir de son expérience gouvernementale à la tête du gouvernement provisoire. Non, de Gaulle s'appuie, sans le citer, sur la pensée et les écrits d'un ancien président du Conseil de la Troisième République, André Tardieu. Une personnalité forte qu'on a pu qualifier d'autoritaire, Tardieu dirigea à trois reprises le gouvernement entre 1929 et 1932, mais il se heurta frontalement à l'opposition de la Chambre et à son corollaire, l'instabilité gouvernementale. D'où cette conclusion, exprimée clairement dans un ouvrage en deux tomes paru en 1936 et 1937, « La Révolution à refaire ». Pour Tardieu, il était urgent pour la République d'évoluer vers un régime à l'américaine avec un président doté de réels pouvoirs. Comment Tardieu était-il arrivé à ses conclusions au terme de son échec gouvernemental et quels souvenirs avait laissé cette époque Tardieu dans la classe politique? C'était le sujet de cette émission d'Émile Dana et Raymond Thévenin en février 1958, Tribune de Paris.
Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Une émission d'Émile Dana et Raymond Thévenin. Dix dates de l'entre-deux-guerres. Sous ce titre, la Tribune de Paris poursuit une série d'entretiens que l'on peut entendre chaque semaine. Ce soir, l'époque Tardieu. Autour du micro sont réunis Paul Boncour, ancien président du Conseil des ministres, Albert Bayet, professeur honoraire à la Sorbonne, président de la Fédération de la presse française, Raoul Girardet, maître de conférence à l'Institut d'études politiques, Adrien Dansette et Jacques Madol. Raymond Thévenin va mener le débat. Messieurs, dans notre dernière conversation, nous avons parlé de Raymond Poincaré et de ce que nous avons appelé le sauvetage du front. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre personnage éminent de la Troisième République, André Tardieu, et plus peut-être que le personnage lui-même, son époque. Monsieur le Président Paul Boncour.
L'Union nationale de Monsieur Poincaré avait eu le temps de faire le rétablissement monétaire et d'aller jusqu'aux élections de 1928. Elle les gagna même, mais elle en sortit cependant très ébranlée. Et voici pourquoi. La désunion des radicaux et des socialistes, l'intransigeance des communistes, avaient assez fortifié l'aile droite de la majorité pour que les radicaux s'en inquiètent et opèrent au contraire en rapprochement avec les socialistes. Et puis surtout, M. Poincaré, écarté de pouvoir par la maladie, causée par son labeur, que seule son implacable méthode avait empêché d'être écrasant, centre et droite, avait trouvé, dans la personne de Tardieu, un chef jeune, énergique, plein d'allant, et qui ne demandait qu'à les conduire à la bataille. Lors du renversement du ministère, qui était présidé par Briand, succédant à Poincaré, le président Doumer, qu'on savait, souhaitait l'arrivée au pouvoir de Tardieu, procéda comme on joue au billard par la bande. Il fit d'abord appeler Daladier. Daladier était à l'extrême gauche du parti radical, et on pensait bien qu'il ne constituerait pas le ministère sans faire appel aux socialistes. C'est ce qu'il fit. Et les socialistes, suivant leur habitude, refusèrent la participation. C'était ce qu'attendait M. Doumergue, qui fit alors appeler M. Tardieu. Et Tardieu prit le pouvoir. Vous le connaissez bien, et ça vous intéresse, je dirai tout à l'heure, quelques traits de sa personnalité, mais j'attends un peu que mes collègues aient donné leur avis sur l'importance politique de ce ministère tardieux.
Jacques Madoul.
Cette date de 1929, à laquelle André Tardieu prit le pouvoir, est une date décisive, je pense, dans l'histoire de la période de l'entre-deux-guerres. Parce que il me semble que ces années 1929 et 1930 sont des années tournantes, où s'achève une période qu'on pourrait appeler la période de l'après-guerre ou la période de la reconstruction, et que va commencer une période beaucoup plus dure, qu'on pourrait appeler, puisqu'elle se termina en 1939, la période de l'avant-guerre. Et c'est à ce moment-là qu'un mauvais destin a placé le ministère Tardieu. Car Tardieu voulait former le ministère de la prospérité, le ministère de l'expansion. Il dressait devant l'opinion publique française le plan de la prospérité et de la grandeur de la France en un moment où, en dehors de nos frontières, commençait déjà à se faire sentir ce qu'on appelle en termes techniques la récession, qui était exactement le contraire de ce que Tardieu espérait faire. Et je pense que si l'expérience Tardieu a été finalement une expérience décevante et un échec, cela est dû beaucoup moins aux fautes que Tardieu put commettre, et il en commit sûrement, qu'aux circonstances défavorables dans lesquelles, sans le vouloir, il avait été amené à prendre le pouvoir.
Adrien Lancette.
Je suis entièrement d'accord avec M. Madoul. Il me semble que ce qu'il vient de dire est tout à fait juste. Tardieu apportait quelque chose de nouveau lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Tardieu n'a pas purement et simplement imité Poincaré. Poincaré faisait une politique très conservatrice et prenait au camp qu'il le pouvait les dépenses. Avec Tardieu, nous arrivons à une conception nouvelle, nous arrivons à une génération qui accorde plus d'importance aux dépenses économiques et sociales. Ça me semble en effet un phénomène de génération. À cette époque, les hommes politiques de l'ancienne génération disparaissent peu à peu, Poincaré, Barthou, Caillaux, et leur succèdent des hommes d'une nouvelle génération, Tardieu, Laval, Flandrin. Et Tardieu donc, comme l'a très justement dit Jacques Madoul, a voulu innover en matière économique et sociale. Il a voulu somme toute faire en France ce que font traditionnellement les chefs des partis, du parti Tory, du parti conservateur anglais, qui ne laissent pas le monopole des grandes réformes au parti de gauche. Il est exact, et il est incontestable, que Tardieu avait un vaste programme de politique économique et financière. Il est exact aussi qu'il avait un programme de réforme sociale. Nous y viendrons tout à l'heure, je ne veux pas accaparer la parole, et je suis sûr que M. Girardet a lui aussi des points de vue intéressants à soutenir sur les conceptions de Tardieu.
Raoul Girardet.
Mais un grand destin manqué, tel est au fond la conclusion de M. Madoul et la vôtre, M. Dansette. Or, à cet échec du destin de politique de Tardieu, il y a évidemment des raisons d'ordre général. La France est atteinte par la Grande Dépression mondiale de 1929. Mais n'y a-t-il pas aussi, il faudrait demander au président Boncour, des raisons d'ordre personnel? Raisons d'ordre personnel qui ont fait que Tardieu même était peut-être mal fait pour s'imposer à une assemblée parlementaire. D'abord, c'était un brillant sujet. Un brillant sujet reçu premier à l'école normale et il n'y entra pas. Reçu premier au concours des affaires étrangères où il ne fit qu'une brève apparition. Et ce caractère de brillant sujet, d'ancien lauréat du concours général, il me semble qu'il a conservé une certaine attitude de supériorité, souvent un peu méprisante à l'égard de ses collègues. Ensuite, Tardieu était un gosse de riche. C'était un fils de la plaine Monceau. Et là encore, ce caractère de grand bourgeoisie parisienne n'a pu probablement que déplaire aux parlementaires moyens. Enfin, Tardieu, je crois, était un Parisien. Et c'est ce caractère d'extrême parisianisme que souligne, dans un livre que j'ai sous les yeux et qui est consacré à André Tardieu, qui vient de paraître à la librairie Plon, M. Gabriel Pau, qui explique assez bien le caractère de Tardieu Justement par le fait que Tardieu est un Parisien et qu'on retrouve dans Tardieu un certain nombre de traits caractéristiques du Parisien. Et d'abord justement l'orgueil, la supériorité, en même temps que la gouaille, le caractère un peu désinvolte. C'est quelqu'un à qui on ne la fait pas. Tardieu avait la dent dure. Or, les assemblées parlementaires françaises sont composées de provinciaux et de ruraux. Ce grand bourgeois, ce brillant sujet, ce Parisien désinvolte, moqueur, viveur, avait, je crois, tout ce qu'il fallait pour les choquer.
Albert Baillet.
Mais j'ai connu André Tardieu, évidemment, quand il était jeune au Quartier Latin. C'était, comme on vient de le rappeler, un sujet brillant. Seulement, il avait un malheur, c'était un jeune homme de gauche. Et il n'a pas tellement été à droite quand il a fait pendant des années le bulletin quotidien du journal Le Temps. Il était très bien avec nous, nous étions très bien avec lui. Enfin, comme beaucoup de gosses de riches, il croyait l'avenir à gauche. Il désirait être un homme de gauche. Seulement, voilà, la gauche était pleine d'hommes de talent. Je ne dirais pas que ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais avant ça, il y en avait encore beaucoup plus, si cela peut se concevoir. La droite en avait très peu. Il eut le sentiment assez parisien d'une place à prendre, et à mon avis, et je pourrais mettre bien des conversations sous ce propos, il a voulu faire, sous l'étiquette de droite, une politique de gauche. Quand il s'est présenté à Daladier notamment, et j'y étais, en lui disant, mes enfants, ce sont vos enfants que je porte sur mes bras. En un sens, c'était vrai. C'était bien les enfants de Daladier. Mais aux mains de Tardieu, les enfants de Daladier n'ont pas très bien tourné. Aux mains de Daladier, évidemment, si.
Monsieur le Président.
Monsieur Girardet a eu tout à fait raison de dire qu'on ne pouvait pas apprécier la politique de Tardieu en dehors de sa personnalité. Et cette personnalité, moi, personnellement, je l'ai connue mieux que personne. Nous avions commencé notre jeunesse ensemble. Nous avons été tous les deux les collaborateurs intimes de Valdez-Crousseau.
Oui, c'est la tradition libérale dont parle M. Baillet.
Durant son long ministère de 3 ans. Les ministères duraient longtemps, alors. Je l'ai retrouvé, quand il a pris le pouvoir, tel que je l'avais connu. Autorité, péremptoire, sûr de lui, et je dois dire l'un des cerveaux les mieux organisés que j'ai connus. Il faisait fonctionner son mécanisme cérébral à volonté, préparant un discours, écrivant un article, n'importe quand, n'importe où, jusque dans les lieux les plus inattendus, pas seulement dans son cabinet de travail. Et parfois même, nous étions jeunes, il faut le dire, dans des lieux de plaisir qui ne lui étaient pas indifférents. Je l'ai retrouvé, ayant pris de la bouteille, il avait gardé toute sa vigueur. Il menait ses partisans et ses ministres à la baguette, avec une autorité que je n'ai pas assez vue chez d'autres et que je dois dire que je n'ai pas pratiqué moi-même, et je le regrette. C'est lui qui avait raison. Alors Tardieu prit le pouvoir et il le garda jusqu'aux élections de 1932, que dans les confidences que nous avions ensemble, parce que nous travaillions ensemble à Genève, nous avions été très séparés avant, nous avons été très séparés après, mais enfin à ce moment-là, je l'avais retrouvé, et dans ces confidences, il ne me cachait pas qu'il espérait bien gagner les élections de 1932. Il avait été mal renseigné par ses préfets, comme M. Poincaré en 1924, ce qui lui faisait dire à son ministre de l'Intérieur qu'il levait les bras au ciel disant « Mais c'est une lame de fond !» Et Poincaré, d'un ton sec, lui dit « Vous êtes un bien mauvais marin !» Et les élections le 28, 32 du moins, il les aurait gagnées si, par le rythme inévitable qui s'est produit sous la Troisième République, radicaux et socialistes ne s'étaient pas de nouveau réunis, bloqués, et avaient emporté la majorité.
Je crois que l'échec de Tardieu, que nous venons d'évoquer, comporte malgré tout de grands enseignements. C'est que Tardieu aurait pu être en effet, comme on vient de le dire tout à l'heure, le chef, d'un grand parti conservateur français à l'image de ce qu'est le parti conservateur britannique. Lorsqu'un Disraeli, par exemple, prit la tête du parti conservateur britannique, eh bien, ce ne fut pas une fois, mais bien des fois qu'il porta dans ses bras et qu'il amena à terme les enfants de ses adversaires libéraux. C'est de cela qu'avait rêvé Tardieu, et je pense qu'il est dommage pour la France et pour la vie politique française dans son ensemble, que ce grand parti conservateur, qui n'aurait pas été un parti rétrograde, qui aurait même pu être dans une certaine mesure un parti progressiste, n'ait pas vu le jour. Je crois que nous souffrons encore, bien des années après, de l'absence d'un véritable parti conservateur français comme Tardieu le concevait.
Vous avez parfaitement raison, et bien des fois, j'ai conseillé à Tardieu de faire ça.
Adrien Lancette ?
Je suis tout à fait de cet avis. Il faut se souvenir du programme de travaux publics de Tardieu, qui a été en grande partie exécuté, qui comportait la réfection de notre réseau routier, des travaux portuaires, le développement des canaux, un équipement sanitaire qui a comporté la construction de sanatoriums et de préventoriums.
N'est-ce pas lui qui a créé le ministère de la Santé publique,
en effet,
par exemple?
En effet, j'oubliais de le dire.
Et il faudrait tout de même le rappeler.
Et dans le domaine agricole, l'électrification des campagnes, l'adduction d'eau potable, le reboisement, tout ça a été l'œuvre du ministère Tardieu, a été conçu par Tardieu et exécuté par Tardieu. Et également, il y a un point très intéressant que je veux rappeler. Vous vous souvenez du bruit qu'on fait en 1936, la réforme des congés payés. Or, les congés payés datent de Tardieu, au moins quant au projet. C'est le Front populaire qui l'a réalisé, mais Tardieu l'avait conçu. Il avait déposé un projet de loi de congés payés pour les salariés du commerce et de l'industrie. Ce projet a été voté en 1931. Il y a eu à ce moment-là une enquête dans les chambres de commerce. Les chambres de commerce ont été défavorables, dans la mesure où elles représentaient le petit commerce et la petite industrie, qui étaient très hostiles à la mesure, alors que des éléments patronaux intelligents de la grande industrie y étaient au contraire favorables, et le projet n'est pas venu en discussion au Sénat. Mais il faut tout de même rappeler que c'est Tardieu qui, le premier, a pris l'initiative de cette mesure qui devait être réalisée plus tard par ses adversaires.
C'est également lui qui a mis en train les assurances sociales.
Parfaitement. C'est lui qui... La loi avait été votée avant lui, mais c'est lui qui en a obtenu l'application.
Il avait eu les retraites ouvrières autrefois. On ne peut pas l'oublier.
Et il faut dire que si Tardieu a échoué, ça a été, et s'il y a une autre majorité à succéder à la sienne, ça a été en grande partie pour des raisons entièrement étrangères à sa volonté. C'est parce que la crise qui avait commencé aux États-Unis en 1929 et qui avait atteint en dernier la France parce que la France avait eu une économie plus équilibrée, l'a atteinte tout de même en 1932. Et ainsi, la majorité de Tardieu a été balayé et il n'a pu tirer profit de l'intelligente et jeune politique qu'il avait suivie.
Oh, oui, monsieur Lancette vient de dresser un tableau très flatteur et très brillant de l'œuvre d'André Tardieu, mais je crois qu'il y a un aspect intéressant de la personne de Tardieu et qu'il faudrait évoquer, c'est le Tardieu de la retraite, le Tardieu qui renonce à se présenter, je crois, aux élections de 1934 et qui consacre les dernières années de sa vie à méditer sur sa propre carrière politique et aussi sur les institutions, sur le régime. Ce qui me paraît intéressant, c'est que cet homme, qui, M. Baillet nous l'a dit, était de tradition libérale, qui a commencé à écrire dans le très républicain temps d'Adrien Hébrard, et qui fut le collaborateur de Waldeck-Rousseau, a terminé sa vie par une répudiation à peu près complète des institutions politiques existantes. Or, les livres écrits par Tardieu à la fin de sa vie me paraissent constituer malgré tout un message intéressant, ces livres qui sont Le Souverain Captif et La Profession Parlementaire, et contenir des enseignements qui sont au fond aujourd'hui très vivants dans la mesure où ils sont devenus presque des banalités. Tardieu dénonce l'impuissance d'un exécutif sans force ni sans continuité. Il lui oppose ce qu'il appelle la tyrannie sans contrepartie du gouvernement d'Assemblée. Et ce qu'il y a le plus intéressant, et ce qui me paraît représenter un accent nouveau dans la critique du régime parlementaire, c'est qu'il lie l'immobilisme de la Troisième République avec, finalement, ses institutions parlementaires. Pour Tardieu, les institutions parlementaires telles qu'elles fonctionnent sont une sorte de conservatoire des structures périmées, des structures mortes. Tardieu a-t-il pas joué ainsi le rôle de Cassandre ?
Albert Baillet.
J'ai beaucoup attaqué Tardieu. Jadis, j'ai moins envie de l'attaquer après ce que vous venez d'appeler sa retraite, car il est certain qu'il a écrit durant sa retraite des pages que nous avons tous intérêt à méditer. Son échec a été brillant et total. brillant à cause de sa personne, total si on considère les faits. Eh bien, pour moi, si on va au fond des choses, la raison profonde de cet échec, c'est qu'on ne peut pas faire en France une politique de gauche avec des amis de droite et un langage de droite. Ça a pu se faire en Angleterre, ça s'est fait en Angleterre plus d'une fois et très brillamment. Chez nous, ça ne s'est jamais fait. Enfin, ça a été un grand échec. Il n'en reste pas moins qu'à certains égards, c'était un grand homme d'État.
Dans la série 10 dates de l'entre-deux-guerres, le président Paul Boncour, Albert Bayet, Adrien Dansette, Raoul Girardet et Jacques Madaul se sont entretenus de l'époque Tardieu.
Vous venez d'entendre La Tribune de Paris, une émission du journal parlé de la radiodiffusion télévision française réalisée par Émile Dana et Raymond Thévenin.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 14 février 1958.